Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitania. Alors aujourd'hui je reçois Alain Légoni. Bonjour Alain.
Bonjour Claire.
Pour son dernier livre qui s'intitule Perpète, qui est édité aux éditions du Rocher, qui est sorti en septembre 2006, si je ne m'abuse, voilà, et dont on parlera dans un petit instant. Perpète, bien sûr, on s'en doute, c'est perpétuité, et donc qui dit perpétuité, on pense à prison, et effectivement, c'est bien le sujet du livre, entre autres, donc on retrouvera Alain Légoni dans un instant, après quelques petites infos. Tout d'abord, le Café Philosophie, c'est samedi 21 avril, ce samedi donc, de 17h à 19h. C'est toujours au Café des Arcades à Revel, place de la Halle Centrale. Et le thème pour ce samedi 21 avril, c'est « L'égalité est-elle une idée dangereuse ?» Voilà, donc à la veille du premier tour, c'est une question intéressante, je trouve. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement donc de ce Café des Arcades, 05 61 83 57 12, 05 61 83 57 12. Je vous rappelle que le Café Philosophie est ouvert à tous et que les consos sont au prix habituel. Et puis pour le samedi 28 avril, le samedi suivant, à 17h à la médiathèque José Cabanis, au grand auditorium qui se situe au Red Jardin, une lecture à trois voix de la compagnie Autremot, une lecture à trois voix en français et en anglais, avec Anne Cameron, Roland Gigot et Frédéric Aubry. Et qui nous parleront donc une lecture de Harold Pinter. Alors Harold Pinter était poète, donc il y aura des poèmes, lecture de poèmes, de scénettes, de petites fictions aussi. Et donc on rappelle que il avait eu le prix Nobel de littérature en 2005. Et c'est un homme engagé, mais aussi poète et surtout auteur d'essais, enfin d'œuvres théâtrales. Donc c'est samedi 28 avril à 17h à la médiathèque José Cabanis. Voilà, je n'ai plus d'infos pour l'instant. Donc,
page à page, Claire Ambille.
Merci à Greg et à la technique, parce qu'une émission sans technicien, ça ne serait pas possible. Donc Greg est toujours là, merci à lui. Et on continue alors avec, et on commence même avec Alain Légoni. Alors Alain Légoni, vous êtes Toulousain d'adoption, on va dire. Vous n'êtes pas né à Toulouse.
Non, vous êtes... mais à force d'habiter Toulouse... je vais finir par devenir Toulousain.
Ah bah oui, je crois qu'au bout d'un certain temps, on se...
Je suis arrivé à 18 ans et j'y suis encore.
Eh bah oui, comme moi, pratiquement.
Voilà.
Je suis arrivé pas longtemps après vous. Et donc, vous êtes né en Corrèze. Vous êtes corrézien au départ. Et puis vous avez...
Meissac.
Ah, voilà.
Corrèze.
Et vous avez vécu aussi dans le Lot.
Oui, à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière.
Ah, d'accord.
Dans un beau village sans commerce qui s'appelle Cavagnac.
Eh ben... Mais bon, après, vous avez fait vos études essentiellement sur Toulouse, études supérieures.
Oui, ce sont les études qui m'ont amené à Toulouse.
Voilà, les études vous ont amené, bah oui.
Qui m'ont fait descendre à Toulouse.
Oui, parce que le village sans commerce, il n'y avait pas non plus de...
Il n'y avait pas d'université.
Donc, vous avez fait donc des études de lettres, puisque vous avez été professeur de lettres, puis
oui,
de philosophie.
De psychologie, de philosophie, ce qui ne m'a pas empêché d'enseigner les lettres. Et puis la philosophie.
Et oui, donc voilà, prof de philo, hein. Ouais. Donc ça se retrouve un peu dans votre livre, la philosophie.
Je l'espère, oui.
Oui. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça, peut-être parce que moi, j'aimais beaucoup la philosophie quand j'étais au lycée, et c'est vrai que on retrouve comment c'est formulé dans la formulation.
Oui. C'est un traitement de la philosophie un peu particulier. J'appelle ça de la métaphysique en béton.
Ah oui, bah oui, en plus, le
forcément.
Béton, forcément.
C'est pas ce qui manque.
Dans une centrale, forcément, ou dans une prison, tout du moins, c'est le béton, il n'y a que ça.
C'est la matière première.
Eh oui. Et vous êtes aussi président donc, de l'association Toulouse Écrivains Francophones.
Oui, qui organise le salon de littérature francophone consacré cette année aux francophones du Canada.
Voilà, aux francophones du Canada. Donc on en avait parlé avec Jean-Antoine Loiseau, oui, il y a quelques semaines. Donc on peut le rappeler, hein, c'est à partir de demain, donc hein, vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22. Donc on pourra vous y retrouver d'ailleurs.
Oui, hein, parce puisque que vous allez... je signe Perpète et je présente...
Signé pour Perpète.
Voilà. Et ben... je présente quelques auteurs.
Voilà, avec Jean-Antoine Loiseau également.
Voilà, hein, on se les partage.
Voilà, vous partagez quelques auteurs canadiens et de la région, les deux.
Des auteurs, les auteurs du thème, c'est-à-dire les auteurs canadiens, les auteurs nationaux et les auteurs régionaux. On les appelle régionaux parce qu'ils vivent dans la région, mais ils peuvent aussi être édités à Paris,
tout
ce qui est mon cas.
Oui, vous êtes voilà le dernier Perpète, c'est aux éditions du Rocher d'ailleurs.
Voilà.
Hein, qui est à Paris. Alors vous êtes auteur voilà de nombreux romans, essais, biographies. Hein,
oui.
Qu'on va on va un peu les citer hein, histoire de montrer que vous n'avez pas écrit que Perpète et qu'il y en a d'autres en projet qui vont sortir dans quelques temps aussi.
Voilà. J'ai d'autres enfants.
Voilà, vous avez de nombreux enfants, hein, famille nombreuse.
Oui, il y a pire. Hein. On m'a qualifié il y a quelque temps d'écrivain rare. Et voici que tout d'un coup, j'édite 5 fois en 9 ans ou quelque chose comme ça.
Vous êtes productif.
Voilà que l'écrivain rare devient un écrivain prolifique. Non, c'est le fruit de longues années de travail.
Ben oui.
Oui, donc...
dans les romans.
Essentiellement des romans.
La traversée.
C'est mon exercice préféré. Je ne sais pas s'il ne faut pas ajouter les nouvelles. Et puis j'ai commis quelques biographies. deux biographies notamment de sportifs.
Pierre Berbizier.
Et plus précisément de rugbymen, parce que j'aime le rugby. Et puis il n'y a pas de raison de ne pas faire des biographies de rugbymen.
Ben oui,
pas toujours les rois, les empereurs, les hommes politiques.
Oui, tout à fait, c'est bien aussi le sport.
Pas toujours les grands hommes.
Tout à fait, ce sont aussi quelque part des grands hommes,
mais
ils vont d'une autre manière.
C'est intéressant, de raconter une vie même de personnes qui ne sont pas dans les livres d'histoire.
Tout à fait. Et puis en plus, en étant à Toulouse, hein, le rugby.
Et comme la Coupe du Monde approche, je récidive avec... un livre d'entretien avec Pierre Berbizier, qui fut entraîneur national, entraîneur du 15 de France et qui aujourd'hui entraîne le 15 d'Italie.
D'accord.
Donc, voilà. Au chapitre des biographies, une biographie de Jacques Majorelle, qui est à paraître aux éditions Michelon. Qui est le créateur des Jardins Majorelle de Marrakech et qui est aussi un peintre, un bon peintre. Voilà.
Vous aimez voyager ?
Oui.
Vous avez été à Marrakech ?
Plus particulièrement au Maroc.
Voilà.
Tout particulièrement au Maroc.
Parce qu'il y a un livre d'ailleurs qui. Je suis en train de chercher le nom, mais je ne l'ai plus.
Oui, il y a des romans qui se passent en Afrique, en Afrique noire.
Ah oui,
un policier.
Mais il n'y a pas un titre avec Marrakech dedans ?
Dans une revue que dirige Marc Triard, chez Buchet-Chastel, Les Faucons de Marraquech.
Voilà, Les Faucons de Marrakech.
Un texte de quelques pages.
Et alors, tous vos livres, on les trouve...
dans les bonnes librairies.
Partout. Dans tous les magasins qui vendent des livres. Donc, il y a La Traversée, il y a L'Idée. Dans L'Idée, vous abordez, dans le roman L'Idée, vous abordez déjà le thème de l'enfermement.
Tout à fait, oui. On peut le signaler, effectivement.
J'ai déjà
écrit un roman de prison. Cette prison, c'était un internat de province.
Ah oui.
Qui ressemblait, les internats de province, il y a quelques années, 40 ans, 50 ans ressemblaient
à des prisons.
À des prisons. Ouais. Oui. Donc j'ai été en prison, on peut dire.
Oui.
Avant.
Oui. Et Malim Mélo aussi, c'est un roman.
Pas de prison, africain.
L'Africain avec le Mali,
Comme La Traversée.
Comme La Traversée. Et La Musaraigne ?
Pas africain.
C'est pas une musaraigne africaine.
Oui, c'est on peut appeler ça un roman d'amour.
Ah, vous écrivez des romans d'amour aussi.
Et oui, mais tous les romans sont plus ou moins des romans d'amour. J'ai remarqué que tous les grands romans racontaient une histoire d'amour. Vous ne l'avez pas remarqué? Dans la plupart des grands romans, y a une histoire d'amour. Mais, par exemple, dans Don Quichotte.
Oui.
Cet oui, ouvrage c'est vrai, oui, fondateur
mais voilà, ça dépend comment on définit l'amour, en fait. Et l'amour pour qui et pourquoi, quoi.
Oui,
voilà,
mais ouais. Bon, l'amour de Don Quichotte pour Dulciné, c'est pas n'importe quoi.
Oui, non, non.
C'est
non,
un grand amour, ouais, violent. Non,
c'est vrai.
Oui, oui.
Bon. Et donc, et vous avez écrit aussi Quercy au cœur?
Oui, ça, c'est c'est un livre de commande. C'est parce que, comme je suis originaire de cette région-là, que j'ai passé mon enfance, ma jeunesse, on m'a demandé d'en parler. Ce que je n'ai pas manqué de faire.
Et ben, vous l'avez certainement
avec de belles photos de Nelly Blaya.
Oui. D'accord, donc un livre illustré avec des photos. Et puis dans les nouvelles, on a Le Perroquet, La Chasse à la Bécasse, Les Faucons de Marrakech. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé.
Donc, les nouvelles, un genre qui m'est cher. Je peux dire que c'est par là que je suis entré en littérature.
Ah, donc voilà.
J'ai commencé avec des nouvelles.
Vous avez commencé avec des nouvelles. Et après, vous êtes attaqué au roman.
Voilà.
Et après, les biographies. Enfin, les... vous êtes penché un peu sur...
Je ne sais pas quoi. Une récréation pour ma plume, la biographie.
La biographie, c'est une récréation.
C'est moins difficile que le roman, que la nouvelle.
Ouais. Et donc, vous avez toujours eu envie d'écrire, vous avez toujours beaucoup lu, j'imagine, études de lettres, prof de lettres, de philo.
C'est pas comme ça que ça commence,
le
désir d'écrire. Enfin, en tout cas, chez moi. Chez moi, ça commence par ce que j'appellerais une catastrophe métaphysique.
Ah.
À l'âge de 12 ans, le sentiment d'exister poussé à l'extrême jusqu'à craindre de perdre la raison. C'est ce que je raconte dans l'idée.
D'accord.
J'ai eu ma nausée, donc.
Oui.
Très jeune, j'étais précoce.
Plus jeune que Sartre
quand il a écrit
la nausée.
Je pense que souvent c'est une blessure qui est à l'origine de la création artistique.
Oui, un déclic, oui, c'est vrai. Un événement douloureux, ou enfin, quelque part, un événement quand même, quelque chose, oui.
Puisque le roman Perpète commence par l'histoire de l'araignée, on peut dire que cette blessure, c'est ce qui déchire la toile, et après, on a de cesse de la réparer. Il a réparé, un bon moyen de réparer la toile qui a été déchirée, c'est de créer quelque chose dans le domaine de l'art.
Moi, j'ai choisi l'écriture. Vous auriez pu choisir la peinture ou autre chose,
j'aurais
mais vous,
pu, oui.
C'est l'écriture.
Enfin, je ne sais pas si j'aurais pu, si j'aurais su, mais bon.
Mais l'écriture, c'est un peu un exutoire, enfin, quelque part. Ça
une pente m'a porté vers l'écriture, oui.
C'est un peu une auto-analyse, quoi. Enfin, genre, ça vous permet de...
Oui, elle a une fonction thérapeutique, l'écriture.
Voilà, tout à fait. Voilà, je cherchais le mot, thérapeutique, oui.
C'est pas... Quelquefois, c'est pas la peine d'aller voir le psychiatre.
Non.
Il vaut mieux
vaut mieux prendre un cahier avec un stylo ou alors un ordinateur.
Et parler au cahier. Se raconter à la feuille blanche.
Et ça permet d'évacuer ces...
Mais de mettre de l'ordre, en soi. Parce que mettre de l'ordre dans l'écriture, c'est mettre de l'ordre dans ses pensées, et donc c'est mettre de l'ordre
dans sa vie,
dans son esprit,
vie, après ça, tout en découle, quoi. Hein, ça... oui. Et alors justement, Perpète, en revenons à ce roman, à votre dernier roman, aux éditions du Rocher, je le rappelle. Donc c'est un peu le quotidien dans l'univers carcéral d'un homme donc, qui a pris Perpète, comme on dit, qui a pris perpétuité. Et c'est aussi une réflexion sur l'idée du temps, de la liberté, bien sûr, de la détention, de la prison à vie. Et puis ça pose un peu la question, est-ce que nous sommes vraiment libres, même au-delà des barreaux, finalement? Parce que,
la question de la liberté, elle ne se pose pas seulement pour les gens qui sont en prison. Elle se pose pour tout le monde.
Oui, pour nous aussi.
La preuve de quoi on parle, quand dans les campagnes présidentielles, on parle notamment du problème des libertés, de la liberté.
Donc la liberté, oui.
Oui, ce sujet, effectivement, me permettait d'aborder des questions qui sont en philosophie essentielles. Celle de la liberté, dont on vient de parler, celle du temps.
Oui, le temps.
Oui, qui est une grande question de la philosophie. Merleau-Ponty disait que c'est à la capacité à penser le temps qu'on reconnaît le philosophe. Voilà. Et donc, le perpète, lui, il a que ça à faire.
Lui, il entend les secondes tomber. Je vais lire la quatrième de couverture. Voilà. J'aime beaucoup cette expression qu'il entend les secondes qui tombent parfois.
Oui. C'est pas des...
C'est imagé, mais je crois que c'est...
C'est pas des heures, c'est pas des minutes.
C'est des secondes.
C'est pas des heures qu'on vit ici, dit des tolards. Un tolard, c'est 3600 secondes plus 3600 secondes.
Et voilà. C'est une par une, quoi. Il les sent une par une, quoi.
Le temps de la prison, c'est du temps qui punit.
Oui, aussi, bah oui, bon, c'est sûr que s'ils sont en prison, on imagine qu'ils ont certainement fait quelque chose, de répréhensible par la loi, donc, forcément, oui, il y a une idée de punition. Donc, il y a 31 chapitres, dans Perpète, c'est un beau livre. Ah oui, 31. si. Et donc, on peut dire que c'est un peu un monologue, le monologue de Merleau, c'est un jeune délinquant qui a tué quelqu'un, qui a tenté de tuer.
Il a volé, il a tué. Il a tout fait.
Il s'est évadé plusieurs fois, donc forcément, il a repris à chaque fois.
Il s'est évadé, un type exemplaire. Et il a pris Perpète.
Voilà. Et donc il écrit en fait quelque part c'est son journal intime un peu qu'on va lire son journal.
Oui, c'était ça mon propos, c'était essayer de retranscrire le monologue intérieur d'un type dont l'horizon est bouché par la prison, par la
lourde peine. Oui, puis qui ne peut que penser à longueur de temps, qui ne peut que faire ça.
Oui, à quoi on pense quand on est en prison, l'occasion pour l'auteur et pour le lecteur de découvrir le quotidien de la prison. Les gens se demandent, il me semble, qu'est-ce qu'ils foutent en tôle, à quoi on peut bien penser quand on est enfermé dans une cellule de 3 mètres sur 2. Voilà, j'ai essayé de répondre à cette question. J'ai essayé de faire un livre... un roman de prison ou un livre sur la prison qui soit différent des autres.
Oui, parce que moi, je trouve que c'est le seul que j'ai lu qui soit... Enfin, moi, j'ai lu beaucoup de livres, mais enfin, sur ce thème-là, il y en a peu. Et des traités comme ça, enfin, des livres qui sont traités de cette façon, il y en a très peu. Donc, je trouve qu'il est vraiment, vraiment intéressant, votre livre, à ce niveau-là, parce que, on a l'impression que c'est un roman, mais c'est vraiment inspiré de réalité, quoi, de vécu. Vous avez d'ailleurs, vous m'avez dit, rencontré des tolards, ou ex-tolards, ou des tolards encore actuellement, et des aumôniers de prison. Donc, vraiment, vous avez été au cœur de là où ça se passe.
Oui.
Donc c'est nourri quand même de réalité, votre livre.
Tout à fait. Enfin, du moins, je l'espère. Je me suis efforcé, en tout cas, en allant en prison, en rencontrant beaucoup de tolards, en écoutant les émissions de radio consacrées à la prison. Il y en a eu pas mal sur France Culture, en glanant des informations à droite et à gauche, à la télévision, dans les livres. Mais mon propos, donc, n'était pas de faire un livre témoignage ou un livre reportage, mais de faire un ouvrage autant que possible universel, quelque chose d'exemplaire, un livre sur la prison qui aurait donc une valeur universelle, c'est-à-dire qui puisse être... vrai aujourd'hui, vrai dans 20 ans, dans 50 ans, et qui ne soit pas...
Et qui a été vrai aussi, bien avant
tout
aussi.
À fait. Merci.
Quand on voit les camps en Guyane, en Guyane française, avec les camps pénitentiaires, je crois que...
le roman de la prison, mais comme l'universel se nourrit de particuliers, j'ai donc fait et servi du particulier... en allant au devant des gens qui ont vécu cette expérience de la tôle. Et j'ai eu la chance de tomber sur un individu
qui vous a inspiré,
qui a eu un parcours exemplaire, lequel m'a servi de colonne vertébrale à mon histoire. Bien sûr que l'histoire de Merleau, elle se nourrit aussi d'un tas d'autres histoires. Mais enfin, il y a un personnage quand même qui apporte beaucoup, qui donne beaucoup à ce récit. Ce personnage, donc, a déambulé à travers toutes les centrales de France pendant les années 60 et un peu au-delà, à une époque où la prison était particulièrement dure. Ce qui faisait dire aux bagnards de Cayenne, quand le bagne a fermé, qui ont été dispersés à travers les centrales françaises, sur un ton admiratif, putain, ça, c'est de la tôle. Donc, c'était vraiment de la tôle. Voilà.
Oui, et moi, ce que j'aime bien, ce que vous dites en prélude au premier chapitre, c'est une citation de Goethe, hein. Celui qui lutte chaque jour pour la liberté mérite d'être libre. Oui. Moi, j'adore cette.
Oui, et bien, puisque vous avez adoré ça, vous allez adorer aussi cette citation. Celle-là, elle n'est pas de Goethe, elle est de Saint-Vincent de Paul. Mmh. Un hommage rendu aux prisonniers, c'est-à-dire à ceux qui ont péché et qui sont en train d'expier leur peine dans la souffrance de la prison. Alors voilà ce que dit Saint Vincent de Paul. Ne vous occupez pas des prisonniers si vous ne consentez pas à être leurs sujets et leurs élèves. Ceux que nous appelons des misérables, ce sont eux qui nous doivent évangéliser et convertir. Après Dieu, c'est à eux que je dois le plus. Qu'est-ce que vous en dites ?
Mais il n'a pas tort, hein. On apprend de toute façon de tout le monde, hein. On apprend de tous, hein. Je crois que c'est le principe même de la vie, hein. Et ceux qui ne le savent pas encore devraient le savoir, ça serait mieux pour tout le monde.
Oui.
Si tout le monde le savait, ça aurait peut-être moins de problèmes, hein.
C'est ce qui m'a semblé quand j'ai mis la première fois que j'ai mis les pieds en prison.
C'est qu'on apprend, on apprend même de quelqu'un qui est enfermé, même s'il a tué 3 personnes. Il a forcément quelque chose à.
En principe, on ne sait pas ce qu'ont fait les gens qui sont en face de
vous. Mieux d'un
c'est
côté.
La règle.
C'est mieux.
C'est la règle.
Mieux.
Oui.
Parce que bon, ça peut
influencer. Mais dans le tas, il peut y avoir
d'affreux
criminels.
Ah oui. Voilà. Et puis bon, à la fin, vous faites bien sûr vous remerciez donc tous les taulards, en particulier donc le fameux seigneur des barreaux qu'on ne nommera pas, mais il se reconnaîtra forcément, j'imagine.
Oui.
Et puis à 3 aumôniers, hein, et un visiteur de prison également, hein, qui ont aussi, d'une certaine manière, collaboré à ce livre. Je vais lire la 4e de couverture pour donner quand même une idée du sujet, enfin de l'écriture aussi un peu, avant de lire un petit passage, si on a un petit peu de temps, mais quelques lignes. Alors, ce peu de verdure qui dépasse de la haute, de cette putain de plaque en ciment, qui nous bouche la vue, des fois que la vue du dehors nous donnerait des idées, ces arbres là-bas ont l'air tout près. 150, 200 mètres au pire, et pourtant, entre eux et moi, il y a à peu près la même distance qu'entre la Terre et la Lune. On dirait qu'il y a quelques minutes à pied, en fait, pour y arriver, il y a au mieux 10 ans. Encore 10 ans à tirer, à condition que je me conduise bien. C'est ce qu'il faut compter quand on a pris perpète, qu'on a fait 108 mois de tôle et tenté plusieurs fois de s'évader. 10 ans, ça fait quelques heures à attendre. Pas des heures creuses, mais des pleines. Des heures bien remplies, bourrées de secondes. Les heures, ici, c'est 3600 secondes, plus 3600 secondes. Dehors, ils comptent les jours, les semaines. Ici, on compte les secondes. Des fois, je les entends tomber. Voilà, ça donne le ton de votre livre, Alain.
Il me semble, oui.
La 4e de couverture a été bien, bien choisie. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire ? On a encore quelques petites minutes pour lire quelques lignes. Voilà, quelques lignes du premier chapitre.
Le chapitre qu'on peut appeler le chapitre de l'araignée.
Voilà, le chapitre de l'araignée.
Je la nomme parce que des fois que les gens ne la reconnaissent pas tout de suite.
Oui, au début, c'est vrai qu'on ne la reconnaît pas tout de suite. On se dit, tiens...
Elle est là, au bord de son trou, immobile, toujours aussi moche et patiente. Au début, j'avais peur de ne pas la retrouver le matin, qu'elle se soit tirée pendant la nuit. Il n'y a pas de danger. Elle est fidèle au poste. Elle n'a pas l'air de s'emmerder. Elle peut rester des heures sans bouger, des journées à attendre, à guetter sa proie, plantée dans son piège, planquée dans son piège à con. Quelquefois, ça marche. Elle n'a pas attendu pour rien. Elle pourrait se tirer, et pourtant, elle reste là. Il y a de la place ailleurs. De l'autre côté des barreaux, c'est pas l'espace qui manque, ni l'espace, ni les insectes, et il a fallu qu'elle vienne s'enterrer ici, dans une centrale de force, qu'elle vienne moisir dans une piole de 3 mètres sur 2, avec un individu réputé dangereux. Je me demande si elle réalise bien où elle est tombée, dans quel trou pourri. Elle doit pas bien se rendre compte de ce que c'est, une tôle. Quelle tristesse, quel ramassis d'humanité. Elle est peut-être pas venue complètement par hasard, elle est peut-être pas si con que ça, ici. C'est peut-être pas le luxe, les mouches sont un peu rares, mais au moins, elle est peinarde. Je la laisse vivre, moi. Elle est pas si mal tombée au fond, je suis peut-être pas si dangereux que ça. 6 mois qu'elle est là, 6 mois qu'on habite ensemble, et pas le moindre accroc. Pour ainsi dire, le bonheur sans nuage. 6 mois, c'est pas rien dans la vie d'une araignée. Ça doit faire un sacré bout de temps, 10 ans, 20 peut-être, de nos vies à nous. Je saurais pas dire. Je sais pas combien sa vie au juste, ces animaux. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera crevée depuis longtemps quand je sortirai d'ici. Archi-morte. Elle est arrivée en mars, début mars. Le soir, rien à signaler. Et le matin, il y avait sa toile dans l'angle, à droite de la fenêtre, presque au-dessus de ma tête. Un peu de dehors était entré dans la tôle. Elle a dû travailler de nuit, faire sa dentelle au clair de lune. Ça m'a fait quelque chose quand j'ai découvert son installation. C'était pas la première araignée que je voyais, mais celle-là était pas comme les autres. On avait l'impression qu'elle s'installait, qu'elle venait partager ma cellule. C'était comme s'il y avait quelqu'un chez moi. C'est pour ça que je l'ai laissée. C'est pas bien gros, une araignée. C'est peu de choses. Il n'empêche que ça peut faire une présence. Vu que j'ai pas mal de temps à moi, que j'ai même que ça à foutre, tout de suite, je me suis intéressé à elle. J'ai assisté à sa première capture. Faut voir ça. Comment elle laisse d'abord s'empêtrer la bestiole, comment elle lui laisse bien s'emmêler les pinceaux. Plus la mouche s'agite, plus elle aggrave son cas. La toile tremble, mais l'autre bronche pas, pas encore. Elle attend le bon moment. C'est tout d'un coup qu'elle perd patience. Faut voir à quelle vitesse elle déboule, en danseuse, comme montée sur des ressorts. Elle marche exactement sur les fils, jamais un pied au travers. Un vrai spectacle, on s'en lasse pas. Si on m'avait dit ça un jour, que je m'intéresserais aux araignées.
Et oui, c'est ça, c'est que l'enfermement, ça fait, on s'intéresse à des choses que finalement au dehors, peut-être une araignée, on voit une araignée, nous ça nous fait pas grand chose. Bon bah lui, pour lui, c'est presque une compagnie, enfin c'est une compagnie, hein,
c'est
finalement.
C'est une compagnie, donc, et une découverte. Oui.
Et la découverte, voilà, qu'une araignée, ben voilà, ça peut avoir une importance. Ça, je pense que ça démultiplie les choses, l'enfermement.
Ça apprend à voir.
Puisque oui, ça apprend à voir.
Le
oui,
taulard en tôle, il regarde un tas de choses que précédemment il ne regardait pas.
Oui, voilà, il les regardait, mais sans les voir vraiment. Quoi.
Oui, comme nous faisons tous.
Et oui.
C'est intéressant, une araignée, c'est
et
instructif.
Oui. Merci Alain, donc c'est Perpète aux éditions du Rocher, je vous le recommande chaleureusement, et puis vous reviendrez pour vos prochaines parutions.
Avec plaisir.
Et puis merci encore de votre présence, et puis voilà, sur ce thème de la prison, et puis voilà, j'espère que peut-être s'ils ont écouté l'émission, s'ils peuvent écouter, voilà, leur rendre un peu hommage, hein, parce que ce livre c'est un peu leur histoire.
Oui.
Voilà, merci Alain.
Merci à vous, Claire.
On se retrouve
la semaine. Merci pour votre accueil.
Eh bien, je vous en prie. À la semaine prochaine pour nous, Adiciats à tous. Poupoupidoup.